La mode, c'est permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées. C'est très difficile.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Cette semaine, on parle de l'histoire de la mode. La mode raconte-t-elle l'histoire du XXe siècle? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine, du lundi au vendredi à 14h50, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série, qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h sur France Inter. La mode en voilà un sujet frivole. Assurément, il l'est frivole, futile, fugace, léger. Et oui, la mode nous parle chiffon, robe, manteau, cravate, jupon, veston, chapeau, soulier, culotte. Mais tout aussi sûrement, la mode est un vrai sujet d'histoire. Car la mode, par nature, change, fluctue au gré des années et des saisons, sans qu'on sache vraiment pourquoi et comment, s'inspirant de l'air du temps et de nos changements de mœurs et d'humeur. Mais inversement aussi, la mode, quand on la scrute attentivement, nous envoie des signes, pas toujours simples à décrypter. Elle nous parle de nous-mêmes et de notre société, de notre relation au monde, aux autres, au plaisir, au corps, au pouvoir, à la sexualité, à la fantaisie. Et elle nous pose toutes sortes de questions. Pourquoi les femmes, par exemple, plus que les hommes, sont-elles les premières clientes de la mode? De quand date la haute couture? À partir de quand la mode sort dans la rue? À quel moment a-t-on abandonné le costume traditionnel? La longueur des robes est-elle un baromètre de la liberté des femmes? Pourquoi à un moment arrête-t-on de porter des chapeaux? Question fondamentale, est-il possible d'échapper à la mode? De tout cela, on parle cette semaine avec vous, Olivier Saillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la mode et directeur de la fondation Azzedine Alaïa, auteur de nombreux ouvrages, dont le plus récent, édité chez Bouquin, dans la collection Les Singuliers, s'appelle tout simplement Une histoire de la mode.
France Inter. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Avant d'être un sujet, la mode est un mot qui au féminin n'a pas toujours existé. Au XVIe siècle, pour désigner les manières de s'habiller, on parle surtout d'accoutrement ou de vesture. Rabelais, tout de même, nous dit que les habits du jeune géant Gargantua sont, je cite, « cousus à la mode qui pour l'heure courait ». Mais toujours au XVIe siècle, Montaigne, déjà, il ne sera pas le dernier, porte un jugement moral sévère sur le vêtement qu'il juge parfaitement superflu, surtout lorsqu'il sert à plaire. « Tout ce qui vit, dit-il, se trouve naturellement équipé de suffisantes couvertures pour se défendre de l'injure du temps. » Le philosophe, qui croit donc en la bonne nature, invite les humains du royaume de France à imiter les Indiens d'Amérique qui, je cite, « vivent nus ». C'est du moins ce qu'il croit. Montaigne ne tolère le vêtement tout au plus qu'à titre utilitaire. Montaigne n'aurait sûrement pas apprécié la tenue au siècle précédent d'Agnès Sorel, la belle maîtresse de Charles VII, qui a inauguré des robes somptueuses, bordées de fourrures de martre ou de zibeline, et qui surtout, je cite, « découvre les épaules et le sein jusqu'au tétin ». Une mode immédiatement qualifiée de « ribaudise et dissolution » par les chroniqueurs religieux. Sans parler du blanc de ses joues, qu'elle obtient avec de la farine et de l'os de seiche pilée, et de son rouge à lèvres à base de pétales de coquelicot. Là non plus, les religieux n'ont pas aimé. Olivier Saillard, on voit qu'à peine le mot « mode » apparaît pour désigner des manières de s'habiller, qu'il y a des bonnes âmes pour s'indigner. Ça fait longtemps que la mode est jugée frivole comme ça ?
Je crois que la mode est devenue un sujet de débat et de frivolité dès lors qu'elle a été associée à cet état de séduction, à cet état très personnel d'expression intime que les unes ou les uns ont pu avoir et qu'elle est sortie de ce rang de l'uniforme, en effet. Et on peut se poser beaucoup de questions, en effet, s'il y a légitimité à ce que la mode soit toujours fondée sur une forme de grande différence. Et on peut se demander si cette différence ne devient pas un standard. Mais dès lors qu'elle a commencé à se signifier, elle a opposé les esprits. Et puis, on n'est jamais très sûr que de se regarder devant la glace des heures durant, que ça soit un sujet digne d'intérêt complètement.
Non, peut-être pas. En tout cas, ce qui m'a étonnée en lisant votre livre, Olivier Saillard, c'est qu'il y a des écrivains qui ont écrit sur la mode. Moi, j'en connaissais certains, Colette par exemple, mais j'ai découvert dans votre livre qu'un poète comme Stéphane Mallarmé a écrit sur la mode. C'est très étonnant.
Oui. Beaucoup d'auteurs ont écrit sur la mode, et particulièrement au XIXe siècle, ils se sont emparés. Balzac, Mallarmé, Zola a beaucoup écrit sur la mode, et c'est vraiment pour les historiens de mode, Zola, au bonheur des dames, est vraiment une source plaisante à lire et pour vérifier les grandes évolutions de la mode de cette époque. Mallarmé, c'est encore plus étrange parce qu'il se plaît à décrire des robes. Il invente un magazine La Dernière Mode et en 8 exemplaires, je crois pas plus parce qu'il n'a pas eu un grand succès. Il signe sous des pseudos tous différents, dont Miss Satin, et il décrit les robes qu'il voit ou l'actualité mondaine, et c'est assez illisible, il faut bien le reconnaître, parce que lire du Mallarmé,
c'est déjà pas facile,
mais alors quand il s'agit d'une robe du 19e siècle dont on part du haut par le décolleté, par les fleurs, par le type de broderie et par des atermoiements, il faut bien le dire, que la robe épouse à défaut que ça soit le corps, ça devient à la fin une cartographie très obscure mais assez géniale.
Alors on parle justement du 19e siècle, Olivier Saillard, qu'est-ce qui se passe au 19e? Vous dites que pendant tout le 19e et jusqu'en 1914, la garde-robe féminine est tenue exclusivement à la représentation, tandis que le vestiaire masculin entreprend tout de suite sa résolution durable et moderne. On a l'impression qu'il y a deux voies séparées.
Complètement. Dès le début du 19e siècle, le vêtement masculin se trouve assez immédiatement sous la forme d'un habit, on va dire, d'une veste qui va avoir des hauteurs différentes, de choses qui deviennent des pantalons et d'un gilet. Et donc on devient assez conforme à l'idée du costume masculin tel qu'on le connaît aujourd'hui.
La cravate,
là, fonctionnelle. Oscar Wilde a écrit de très beaux textes lors de conférences qu'il a données aux États-Unis où il montre combien le costume masculin est d'une infinie modernité puisqu'il est arrivé à une forme de résolution qui ne pourra plus être contesté. Il y a un costume masculin qui permet de bouger, qui permet de vivre, qui n'est pas trop sexué à des endroits, qui peut-être gomme trop à d'autres, mais en tout cas, il est comme ça et force est de constater qu'il n'a pas tellement bougé. En revanche, le costume féminin est, lui, l'objet de tous les emprisonnements possibles. On commence le 19e siècle avec des robes en pire. On va voir les robes enflées de pire en pire. Et on termine à nouveau le 19e siècle avec l'arrivée de Paul Poiret qui remet ses robes à la mode. Autre sujet que la mode mode féminine aborde, mais sous la forme d'un emprisonnement, en effet. Alors, cela a donné lieu à des très beaux tableaux, à des très beaux textes, à des très belles œuvres vestimentaires.
Une très belle robe.
Et de très belles robes, il faut bien le constater, mais toutes ces robes étaient sur des corsets.
Voilà, la crinoline, donc cette cage dans laquelle on pose la robe, et le corset qui sert la femme. Et c'est au 19e siècle que naissent les premières maisons de couture, notamment celle de Charles Frédéric Vort, le couturier de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Qu'est-ce qui change avec la haute couture ?
Alors, ce qui change avec la haute couture, qu'on ne dit jamais assez, c'est qu'au 19e siècle apparaissent les grands magasins populaires comme le Bon Marché, qui est largement décrit dans Zola, ou par exemple les magasins du Louvre, sont devenus des grands magasins où on commence une forme de démocratisation, c'est très relatif ce que je dis, mais c'est quand même une forme de démocratisation des vêtements. Jusqu'à présent, on allait acheter son tissu, on faisait commander son vêtement selon ses moyens chez une couturière de quartier ou une couturière de notoriété, et on agissait comme cela, et la mode du coup changeait peu, de décennie en décennie, vaguement. Mais à partir des grands magasins, on voit apparaître pour la première fois ce que l'on appelle entre guillemets des robes toutes faites, c'est-à-dire des robes dont le corsage est tenu à la jupe. Il y a des textes qui en attestent, notamment au grand magasin du Louvre. Et ça, c'est assez silencieux dans l'histoire de la mode parce que ça a préexisté à l'histoire de la haute couture. Ce que l'on peut dire, c'est que Charles Frédéric Vort, qui était un Anglais visionnaire a tout à coup vu ce succès très démocratique et qu'il a eu l'idée d'en faire une industrie beaucoup plus luxueuse. Il a eu l'idée de le faire mieux.
Très démocratique, les femmes du peuple, les femmes à la campagne, les femmes ouvrières, vraiment, qui sont quand même la majorité des Françaises de l'époque, ne s'habillent pas comme ça.
Non. On parle d'une histoire de la mode et en écrivant l'ouvrage, cela m'a encore plus frappé. Vous savez, l'histoire de la mode, c'est peut-être une histoire des protubérances qui partent d'une cour, d'une monarchie ou d'un défilé, ce qui est une sorte aussi d'exception. Et là, on peut avoir des pages, des chapitres, des dizaines de pages. Et puis, lorsqu'on arrive à la description du costume populaire, on a à peine un chapitre dans les livres. Donc, c'est une grande injustice. L'histoire de la mode n'est jamais la bonne.
Merci Olivier Saillard. Rendez-vous au prochain épisode. Il sera question du début du XXe siècle. Vous l'avez un peu évoqué, quand au tournant de la Première Guerre mondiale, on voit soudain disparaître le corset et apparaître les chevilles des femmes.